les podcasts de Vatican News.
C'était il y a tout juste un an, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron remportait l'élection présidentielle face au Front National de Marine Le Pen. À 39 ans, il est devenu le plus jeune chef de l'État français. Après un an au pouvoir, le président a montré sa détermination à tenir ses promesses de campagne et à engager des réformes à un rythme effréné. Mais le président peine à expliquer sa pensée entre guillemets complexe et à se détacher de l'image de président des riches. Face à cette étiquette que lui collent ses détracteurs, quelle est la politique sociale initiée par Emmanuel Macron? La réponse de Dominique Quignot, elle est présidente des Semaines Sociales de France.
Pour l'instant, elle n'est pas très lisible, la politique sociale du président Macron. C'est sans doute l'aspect aujourd'hui qui entraîne une certaine désillusion de la part des Français. Il mène beaucoup de réformes très importantes pour la France et pour lui redonner de l'élan et de la compétitivité. Mais du coup, que peuvent en ressentir les personnes, notamment les plus fragiles, n'est pas évident. Ils ont le sentiment, et c'est un mot que l'on entend, que le président Macron serait le président des riches.
Et justement, est-ce que comme le martèle l'opposition de gauche, il y a des éléments qui permettent de dire que Macron est ce président des riches?
Tout ce qu'il fait en faveur d'une libération de l'entreprise, du fait que les investissements puissent revenir auprès des entreprises françaises, aura et sans doute des effets positifs et ont déjà des effets positifs sur la situation du chômage qui est quand même meilleure qu'elle ne fut dans toutes les années précédentes. Elle n'est pas encore très fameuse. Après tout, quand il y a moins de chômage, c'est quand même important pour le social. Mais ce qu'ont retenu, et puis ça a été martelé effectivement par l'opposition, ce sont qui ont été considérés comme des cadeaux fiscaux pour les personnes les plus riches. Alors c'est toujours avec l'intention de les garder en France pour qu'ils investissent dans l'économie. Et ça, c'est un pari qui n'est pas forcément gagné. Et des choses moins spectaculaires, comme les questions de formation qui devraient être facilitées, une sécurité peut-être plus grande pour les salariés, ça n'est pas non plus perceptible parce qu'en plus, le président Macron, on le sent, a tendance à court-circuiter les corps intermédiaires et les syndicats et éventuellement les associations. Donc, en tout cas, l'impression qu'en retiennent les personnes, c'est que ce n'est pas le point fort de la politique du président Macron.
Face à cette verticalité assumée du pouvoir, existe-t-il un dialogue social?
En France, dès avant le président Macron, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement réussi. On compare souvent avec l'Allemagne. C'est vrai qu'en France, bon, il y a des syndicats qui opère un changement vers une sorte de réformisme, le souci d'arriver quand même à trouver des solutions par consensus. Mais bon, il y a une partie des syndicats qui est beaucoup plus dans une attitude rude. Et en plus, les syndicats eux-mêmes ne sont pas dans une forme extraordinaire. Ils recrutent moins qu'ils ne recrutaient. Leurs adhérents sont assez âgés. Donc il y a souvent aussi, comment dire, des enjeux pour les syndicats eux-mêmes, pour leur représentativité, que d'en rajouter un peu dans l'opposition. Et on ne peut pas dire, là pour l'instant, que le président Macron ait apporté une pierre positive dans ce qui est de toute façon un échec assez permanent de la France.
Alors comment apporter une pierre positive?
C'est vrai que là, c'est un an de pouvoir. Le président Macron a mené beaucoup de réformes, très vite, quelquefois par ordonnance, d'une façon qui peut paraître autoritaire. Je pense qu'il espère avoir des résultats plus rapides peut-être que ses prédécesseurs qui ont quand même souvent tardé à prendre des réformes importantes. Et si ces paris un peu économiques notamment ont des résultats positifs, et de fait si la situation du chômage s'améliore durablement, si les mesures qui sont prises en matière d'éducation, parce qu'on a tendance aussi à le minimiser, mais c'est quand même une question sociale importante, que redonner un peu plus de chances à des enfants de milieux plus défavorisés, et en diminuant le nombre d'élèves par classe dans les quartiers difficiles, je pense qu'il y a une volonté de donner davantage de chances. Si tous ces pas portent leurs fruits, je pense que d'une certaine manière, les Français se rendront compte que c'est au bénéfice du plus grand nombre et peut-être des plus démunis aussi. Après, reste la question de l'immigration qui est quand même assez rude et qui n'a pas non plus trouvé de solution immédiate et qui continue à faire débat, notamment auprès des associations, y compris des associations catholiques, avec le sentiment que le pouvoir mise davantage sur la répression que sur un accueil mieux organisé, etc. Comme il a fait beaucoup de choses, on voudrait que les résultats soient immédiatement tangibles et on voit bien là où les choses pêchent ou manquent, mais peut-être qu'il faut quand même lui laisser le bénéfice d'un peu de temps pour juger sur le fond.
Et un grand dossier que suit l'Église et qui est toujours ouvert, celui de la bioéthique, comment être audible sur cette vaste réforme?
Ça, c'est une grande question et on n'est pas du tout sûr des orientations qui seront données, en tout cas par l'exécutif, et quels sont les projets qui vont être réellement engagés. L'Église catholique en France s'est beaucoup exprimée à cette occasion. Les catholiques se sont formés, ont assisté à pas mal de débats, ils ont participé aussi au débat public. Je pense qu'ils ont joué la carte qu'ils avaient à jouer, d'éclairer les consciences à la fois du législateur qui prendra la décision et puis des Français qui auront à vivre des manières nouvelles dans le monde de la santé, la procréation, la question de la fin de vie, etc. Après, ce qu'il en restera de tout cet appel un peu à la vigilance, à la prudence, pour l'instant, difficile de savoir. On a quand même affaire à un pouvoir très libéral sur le plan économique et qui l'est aussi d'une certaine façon sur le plan sur le plan moral sans doute, avec le souci de l'autonomie des personnes et peut-être leurs décisions individuelles, avec peut-être le risque de négliger ce qu'on appelle le bien commun, quoi, le bien de tous.
Et au niveau international, l'engagement européen d'Emmanuel Macron est bien plus affirmé que celui de son prédécesseur. Quel est l'objectif sur cette scène européenne?
Je pense qu'il voudrait que l'Europe redevienne un horizon souhaitable pour les Français et pour les autres peuples européens, parce qu'on sent bien la fracture qu'il y a aujourd'hui entre les populations et l'Europe telle qu'elle est, mais peut-être aussi l'Europe telle qu'elle n'est pas vraiment, mais qui est mal connue. Je pense qu'il voudrait redonner à l'Europe, qui, selon lui, je pense, est un horizon nécessaire pour que nos pays s'en tirent dans la compétition mondiale et pour pouvoir peser par des manières de vivre, des attentions à un certain droit, aux droits des femmes. Je pense que, voilà, il voudrait redonner le goût de l'Europe. Bon, est-ce qu'il y parviendra? Est-ce qu'il saura aussi convaincre ses collègues européens de proposer quelques changements pour sortir un peu l'Europe de son côté tatillon, qui est trop vu comme réglementaire et économique, redonner un peu de souffle pour le coup social à cette Europe, essayer d'avancer sur la question des migrations. Pour lui, c'est vrai que je pense que c'est un engagement fondamental et qu'il a aussi, s'il porte des fruits, pourrait changer heureusement la vie de tous les Européens.
Des propos recueillis par Joris Bolomé.